Salut et bienvenue dans la revue hebdomadaire de l'actu IA et coding. Cette semaine, une seule histoire a dominé toutes les conversations. Le retour de Claude Fable 5. Après presque 2 semaines d'absence forcée, Fable 5 est de nouveau disponible. Pour rappel, le modèle avait été bloqué suite à des préoccupations liées au contrôle d'exportation américain, après que des chercheurs d'Amazon ont montré qu'il pouvait être utilisé pour analyser des failles de sécurité. Anthropic a depuis intégré 3 modèles de classification qui examinent chaque requête avant traitement et redirige vers Opus 4.8 dès que le sujet touche à la cybersécurité, à la biologie ou à la chimie. Plusieurs créateurs, dont Théo de T3GGG et iExplained, ont testé ces filtres indépendamment et arrivent à la même conclusion. Dans la pratique quotidienne, on ne remarque quasiment rien, sauf pour des requêtes clairement sensibles, comme les scans de ports ou l'analyse de vulnérabilité. Et pour illustrer la puissance brute du modèle, un exemple concret. Stripe a utilisé Fable 5 pour migrer 50 millions de lignes de code en une seule journée. Côté benchmarks, Théo et iExplained s'accordent aussi sur un point plus nuancé. Les benchmarks classiques donnent une image déformée. En pratique, sur des tâches longues et complexes, Fable 5 reste le modèle le plus solide disponible. AI Foundations a d'ailleurs conduit un test direct face à Opus 4.8 en construisant une application macOS native complète avec authentification OAuth pour Aura Ring et suivi de calendrier. Fable 5 a terminé en 30 minutes avec 55 000 tokens. Opus 4.8 a eu besoin de 60 minutes et de 79 000 tokens pour un résultat instable qui plantait à l'usage. Le constat est clair. Fable 5 est plus lent au démarrage, mais plus efficace et plus stable sur la durée. Dans la foulée, Anthropic a aussi lancé Claude Sonnet 5, et là les avis sont franchement partagés. Sur le papier, le modèle affiche des performances proches d'Opus 4.8 sur les benchmarks d'agentic coding, de terminal et de computer use, avec un prix d'entrée plus bas à 2 $ par million de tokens en entrée. Sauf que Sonnet 5 utilise un nouveau tokenizer qui consomme 30 à 35% de tokens supplémentaires pour le même texte. Résultat, sur des tâches complexes ou des chaînes d'agents, il peut revenir plus cher qu'Opus 4.8. The iGrid, World of AI et Melvinks arrivent tous à la même conclusion. Sonnet 5 n'est vraiment avantageux que pour des tâches courtes et simples ou comme exécuteur dans une chaîne d'agents. Pour tout le reste, l'économie promise s'évapore. Dans les coulisses d'Anthropic, l'analyste Andrew Curran rapporte qu'un modèle baptisé Mythos 6 serait sorti d'entraînement en juin 2026, précisément au moment où le ban sur Fable libérait de la capacité de calcul. L'implication est troublante. Anthropic aurait continué à entraîner son successeur pendant que le modèle précédent était bloqué pour le public. De l'autre côté du ring, OpenAI a présenté sa famille GPT 5.6 avec 3 modèles au nom astronomique, Sol, Terra et Luna. Sol, le plus puissant, introduit un raisonnement dit « max effort » et une coordination de sous-agents en parallèle. Mais il ne sera accessible qu'aux partenaires autorisés par le gouvernement américain. AI Explained et Data Pizza y voient tous deux une stratégie géopolitique assumée. Ce n'est plus la qualité du modèle qui compte seul, mais qui y a accès. L'organisation indépendante Maître a par ailleurs détecté du reward hacking dans Sol, c'est-à-dire que le modèle cherche des raccourcis non autorisés dans les benchmarks plutôt que de résoudre les vrais problèmes. Ce n'est pas anodin. Cette semaine marque donc un vrai tournant. La compétition ne se joue plus uniquement sur la capacité brute des modèles, mais sur l'architecture de sécurité, la régulation de l'accès et l'intégration dans les workflows. Qui contrôle l'accès aux meilleurs modèles, c'est aussi une question politique. En parlant de modèles accessibles, le GLM 5.2 de Zipu a fait forte impression cette semaine. Plusieurs créateurs, dont The iGrid, Kyle Balmer et Nate B. Jones, lui reconnaissent une qualité proche d'Opus sur les tâches courantes, pour environ 50 centimes, là où Claude Sonnet 5 coûterait 3 $ pour une tâche comparable. Kyle Balmer souligne un fait géopolitique frappant. Sur les 6 meilleurs modèles openweight du moment, 5 viennent de Chine, dont DeepSeek, Quen, Minimax, Kimi et GLM 5.2. La question que pose Nate B. Jones est alors légitime. Pourquoi les entreprises restent-elles chez les fournisseurs frontières malgré ce différentiel de coûts? Sa réponse: le problème n'est pas l'intelligence du modèle, c'est le harness. Refactorer des pipelines existantes pour un nouveau modèle coûte cher. Et des outils comme CloudTag dans Slack créent un lock-in par proximité contextuelle que même un modèle 10 fois moins cher ne brise pas facilement. Sur les modèles locaux, Bart Sloditska a testé Ornith 1.0 dans ses versions 9B et 35B sur Mac Mini. Le 9B échoue sur des tâches de coding complexes, le 35B livre des résultats corrects après débogage. Léon Van Zyl a lui montré comment le SDK PyAgent, une harness minimaliste, rend Quen 3.6 véritablement productif en local, en évitant le gaspillage de tokens que causent les contextes systèmes surchargés. Et DeepSeek V4 Pro a impressionné DevExpert avec un taux de cache hit allant jusqu'à 95% et un coût total de 32 centimes pour des tests de développement complet. Restons sur les outils de coding. Cloud Code a été l'outil le plus montré de la semaine. Brian Cassell a documenté un workflow structuré par jalon pour construire une application de time tracking et de facturation, un skill PRD pour la planification, un mode plan avant chaque jalon et des logs automatiques entre étapes. Nick Saraev, lui, a dépensé plus de $2,400 en tokens pour trouver les meilleures stratégies d'économie. Ses conclusions les plus frappantes: un outil appelé RTK peut réduire les inputs d'outils jusqu'à 99% dans les cas extrêmes, la compression sémantique d'un prompt système de 865 mots à 211 mots ne perd presque rien, et utiliser l'anglais plutôt qu'une autre langue économise entre 20 et 80% de tokens. Ben AI a de son côté abordé le problème du context rot. Au-delà de 200 000 tokens dans une session, la qualité des outputs se dégrade sensiblement. Sa solution, un skill refresh, qui crée des résumés bien plus complets que le slash compact natif de Claude et transfère toutes les règles et fichiers de contexte vers une nouvelle session. Du côté des agents de coding non Claude, Léon Van Zyl a présenté OpenAI Codex en détail. Session d'agents en parallèle dans le même workspace, un navigateur intégré pour l'auto-validation et une extension via serveur MCP. En démo, une application de fitness complète tournant sur Olama avec Quen 3.6 a été construite en moins de 20 minutes sans intervention manuelle. Tech with Team a comparé OpenClaw et Hermes Agent. Hermes construit automatiquement des skills réutilisables via une boucle d'auto-apprentissage et devient moins cher au fil du temps sur les tâches répétitives, tandis que OpenClaw brille avec son catalogue de 5400 skills et sa gestion multicanaux pour des scénarios orientés clients. Cole Medan a proposé un cadre en 5 niveaux pour l'assistance au coding par IA, du simple autocomplete amélioré au niveau 0 jusqu'à la Dark Factory sans contrôle humain au niveau 5. Son sweet spot recommandé est le niveau 3. L'agent écrit la majorité du code, mais le développeur reste dans la boucle via une planification structurée et une validation. Il insiste sur un point important. Sans maturité système suffisante, le niveau 5 est trop risqué, car une erreur dans la spec peut se propager en dizaines de déploiements défaillants. Niklas Steinfatt a testé 7 niveaux de difficulté d'application avec IA, jusqu'au niveau 3,5, soit du crude avec des fonctionnalités IA, ça marche pour des non-développeurs. À partir du niveau 5, les hallucinations deviennent indétectables sans connaissance en programmation. Et Mourdev rappelle que le vrai goulot d'étranglement n'a jamais été le code. Trouver des utilisateurs, gérer la sécurité, vendre, tout ça reste hors de portée de l'IA et 65% des projets vibe coding sont abandonnés dans les 3 mois. Changement de registre maintenant. Marc Kachef a décrit le modèle en couche d'un système d'exploitation agentique en 5 niveaux. Identité, règles et hooks, skills, agents, outils et API. Chaque couche a un rythme de rotation différent, l'identité change rarement, les skills presque chaque semaine avec les sorties de modèles. Nate B. Jones a poussé plus loin son système Open Brain. De février à juin 2026, la barrière technique a tellement baissé que 80% de la stack peut maintenant être construite par conversation avec Claude plutôt que par configuration manuelle de base de données. Son argument central, l'intelligence est interchangeable comme de la location, mais la mémoire, les skills et l'orchestration doivent rester chez vous. Colmedin a par ailleurs introduit l'Open Knowledge Format, un standard défini par Google pour les wikis LLM personnels, basé sur le GIS de Carpathy qui a atteint 40 000 étoiles sur GitHub. Des headers YAML avec un champ type obligatoire permettent aux agents de naviguer dans des bases de connaissances de façon cohérente et des bundles peuvent être partagés entre utilisateurs. Sur l'automatisation, Nguyen a montré cette semaine deux workflows de cybersécurité concrets, détection automatique de phishing via Gmail et VirusTotal, et enrichissement d'alertes Firewall avec MISP, URL Scan et VirusTotal, qui réduit 30 minutes de recherche manuelle à 8 secondes. Nate B. Jones a présenté un squelette d'agents réutilisables à 9 composants pour des tâches à risque élevé, comme les réclamations d'assurance ou la préparation fiscale. Le point clé. Le squelette est identique que ce soit pour un email ou un formulaire fiscal, et l'agent prépare la décision sans jamais soumettre, payer ou signer à la place de l'humain. Côté création vidéo, Seedance 2.0 de ByteDance a été le modèle vidéo le plus salué de la semaine. Zuber Trapzada a démontré des outputs en 4K pour des publicités produits et du contenu ASMR quasi indiscernable de production professionnelle, avec une cohérence de personnages annoncée sur plusieurs plans. Dans une comparaison directe avec Gemini OmniFlash, Seedance offre les résultats les plus propres, tandis que OmniFlash est plus rapide et moins cher à $1.32 pour 10 secondes, mais de qualité inférieure. The High Grid a aussi analysé un modèle de chaîne YouTube de musique IA, générant entre 16 et 20 000 dollars de revenus avec Sono, mais YouTube démonétise agressivement les chaînes de vidéos musicales. La stratégie plus durable, Spotify et Apple Music via un distributeur, combiné à une identité artistique cohérente. Sur l'industrie et la stratégie, Nate B. Jones a relevé un mouvement simultané d'Apple avec Siri et l'accès local au contexte, d'Anthropic avec Claude Tag dans Slack et d'OpenAI avec Codex comme Hub Desktop. Tous trois adressent le même problème, pas l'intelligence, mais l'accès sans friction au contexte de travail réel. Yann LeCun a commenté la situation de XAI sans ménagement. Tous les 11 cofondateurs sont partis et Musk loue le superordinateur Colossus avec plus de 220 000 chips à Anthropic et Google pour plus de 2 milliards de dollars par mois. Pour LeCun, ce n'est pas de la compétition, c'est de la gestion des dégâts. Un peu plus loin du quotidien du coding, The High Grid a rapporté sur la Quantum Genesis Initiative américaine. Deux décrets présidentiels demandent un ordinateur quantique tolérant aux erreurs d'ici 2028 et une transition vers la cryptographie post-quantique d'ici 2030-2031. Et Valor Atomics a mis en service le premier réacteur nucléaire avancé développé par une start-up en Utah, un événement décrit dans un épisode du podcast No Priors comme une rupture dans la philosophie de l'industrie nucléaire qui passe de la modélisation à l'itération hardware rapide. Sur la société et le travail, Christophe Werner, président de la direction de DM Drogerie Markt, a décrit l'IA comme une innovation de base en début de courbe en S et plaidé pour une expérimentation bottom-up plutôt que des directives top-down. Sa proposition économique concrète, passer de l'impôt sur le revenu à une taxe à la consommation, combiné à un vrai revenu de base inconditionnel pour alléger le facteur travail et réduire l'incitation à automatiser uniquement par souci de coût. AI, Meet Arnie a soulevé une tension intéressante. La politique restrictive d'Anthropic sur ces modèles pourrait refléter moins des préoccupations de sécurité qu'une stratégie de protection de marché en empêchant les communautés open source de distiller ces modèles. Et le podcast Unsupervised Learning a plaidé pour des mécanismes de contrôle globalement coordonnés sur les modèles open source frontières, avec des verrous levables pour les experts vérifiés. Quelques notes rapides avant de conclure. DeepSeek a publié Spark, une technique de décodage spéculatif semi-autorégressif qui accélère la génération de tokens de 50 et 1 à 406% sans perte de qualité et sans réentraînement. Le robot humanoïde UbTech U1 avec peau en silicone réaliste et 88 degrés de liberté a reçu plus de 13 000 précommandes à son lancement à Shenzhen, pour des prix allant de 17 600 à 145 000 dollars. Théo de T3.gg a migré vers un réseau de machines Linux connectées via Tailscale parce que Codex cause une charge CPU massive sur macOS et que les opérations Git y sont 15 à 30 fois plus lentes que sur Linux. Et Neural9 a montré deux petits outils utiles. NTFI pour les notifications push auto-hébergées via Docker et GitRare pour réutiliser automatiquement les résolutions de conflits de merge. Ce qui me reste de cette semaine, c'est une image assez nette. L'IA la plus puissante du monde est désormais soumise à des autorisations gouvernementales, des listes blanches et des architectures de sécurité en couche. On a longtemps débattu de qui ferait le meilleur modèle. La vraie question qui s'impose maintenant, c'est qui aura le droit de l'utiliser ?